Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Océane, que vous connaissez sûrement sous le pseudo The French Virologist sur Instagram. C'est depuis la Californie, où elle réside depuis plusieurs années maintenant, qu'elle m'a reçue virtuellement. Un entretien passionnant que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Océane!
Bonjour Marielle!
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va bien, je te remercie de me recevoir à une heure pas croyable.
23h21, exactement.
Voilà, donc on est sur deux fuseaux horaires un peu compliqués, voilà, en termes d'organisation, et je te remercie vraiment pour ça. C'était la seule façon pour que cet enregistrement puisse se faire, et je suis ravie de te recevoir sur Compresse et Sparadra aujourd'hui.
Ben merci beaucoup, merci pour l'invitation, surtout.
Alors, on va reprendre, j'ai envie de dire, la genèse, parce que voilà, on te connaît sous le pseudo de French Virologist sur Instagram, et moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a amené à ce compte? Qui tu es? Quelle est ton histoire, ton parcours, etc. Alors, pour démarrer, je te laisse déjà te présenter pour éventuellement des personnes qui ne te connaîtraient pas.
Alors, moi, c'est Océane. Je suis deux fois docteur. Dans mon labo, c'est toujours des blagues. On disait qu'on était docteur au carré. Parce que je suis docteur en médecine vétérinaire à la base depuis 2011. Et ensuite, j'ai fait un PhD, qui est en fait une thèse doctorat en recherche. Dans le domaine de la virologie et de l'immunologie, dans un labo qui faisait de la vaccinologie, donc vraiment vaccins immuno-viraux. Et donc voilà, donc j'ai ces deux doctorats, et puis après, j'ai fait de la recherche biomédicale, scientifique, c'est essentiellement ça, et je suis la propriétaire du compte The French Virologist, et où j'essaie de vulgariser les sciences, la virologie en général, et tout ce qui est maladie infectieuse. Donc je fais pas que les virus, je fais aussi tout ce qui est parasito, bactériaux, vraiment maladie infectieuse en général, c'est un peu la mission que je me suis donnée.
et que tu arrives à réaliser haut la main, enfin ça je peux te le dire, pour vulgariser de façon aussi claire. Et surtout avec tout le temps que tu prends, franchement, bravo pour ça. Moi, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ce premier doctorat, déjà, de médecine vétérinaire. Je crois que tu l'as réalisé en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'était une évidence pour toi de devenir vétérinaire? Et puis, pourquoi la Belgique? Parce que je crois savoir que tu es française, de nationalité à la base.
Oui, je suis française. Alors, oui, ça a été une évidence tardive, on va dire. J'ai pas eu l'idée depuis que j'ai 5 ans de vouloir faire veto. Mais au fur et à mesure, donc moi j'adore les animaux. Quand j'étais jeune, je montais à cheval, c'était ma passion, l'équitation, etc. Donc c'est vrai que j'adorais les sciences. Donc, l'idée de devenir veto est quand même assez rapidement venue sur le tapis. Quand j'étais en terminale S, je voulais pas faire de prépa. Moi, c'était le truc vraiment qui... Je suis pas du genre à bosser de manière très continue. Je fonctionne très très bien avec le stress en last minute. Mais la prépa, c'était trop... Ça demandait trop, je pense, pour moi. Ça me convenait pas au niveau style de vie. Donc, c'était pas de prépa. Donc, je m'étais dit, je vais passer le concours en Belgique. Il y avait un concours d'entrée à l'époque. Je crois qu'il n'y a plus ça maintenant. C'est différent. Je crois que c'est en fin d'année. Ça a changé. Et si je l'ai, je pars en Belgique. Si je l'ai pas, alors je pars en médecine. Ma sœur faisait médecine en même temps. Donc je me suis dit, si je l'ai pas, au pire, je vais faire médecine. Mais je veux pas faire de prépa. Je préfère faire un an de médecine que de me taper 2 ou 3 ans de prépa. Voilà. Donc j'ai passé le concours en veto en Belgique. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait plein de gens de prépa de France qui passaient les concours aussi, et je l'ai eu. Du coup, je suis partie. Ça a été c'est vraiment hyper rapide. Bon, je crois qu'on a passé le concours début septembre et j'ai eu le résultat 2 semaines après, et je suis partie. Ça commençait la rentrée, c'était en octobre, un truc comme ça. Donc ça a été hyper hyper rapide.
Donc t'as fait tes valises et t'es partie t'installer en Belgique.
C'est ça, ouais, avec mon chien. Ouais, c'était ça, 18 ans, je suis partie chez mes parents pour aller en Belgique et j'ai jamais regretté, c'était génial. C'était 6 années top. Mes meilleurs potes, je les ai rencontrés en veto, c'était la Belgique, j'adore les Belges. J'aime juste pas le climat des Belges. Désolée les Belges, mais il fait trop froid chez vous. Mais sinon, ouais, c'était super, c'était vraiment des super moments. C'était dur, difficile en termes de travail, mais. Mais c'était, c'était que des bons souvenirs.
En termes d'équivalence, ce diplôme, il t'ouvre à quels horizons? Comment ça se passe?
Alors, il est reconnu dans toute l'Europe, je crois. Je sais, enfin, il y a peut-être des exceptions, mais je pense que c'est toute l'Europe de manière générale. Alors, par contre, il peut pas. Par exemple, si moi, je suis aux États-Unis maintenant, je peux pas être vétérinaire aux États-Unis. Il faudrait que je repasse des examens, un peu comme les infirmières ou les médecins. Ils protègent tout ce qui est board, certify, tout ça. Même les avocats, c'est pareil. Ils protègent leur profession, en fait, libérale, pour éviter justement ce genre de trucs, parce qu'ils payent en plus hyper cher leurs études, donc voilà. Mais donc, je pourrais repasser, je connais des gens qui l'ont fait, mais je crois que c'est plusieurs mois, voire une année au moins, si tu ne peux pas dire 2 ans, il faut payer. Okay. Donc c'est pas donné, et de toute façon, c'était pas mon intérêt, j'avais pas envie de revenir dans la pratique, donc je me suis jamais posé la question.
Juste après l'obtention de ton diplôme de médecin vétérinaire, du coup, tu t'orientes vers une pratique en libéral assez rapidement, ou alors est-ce que rapidement tu réfléchis à l'idée de t'expatrier de l'autre côté de l'Atlantique?
Alors non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait au lieu de faire mes stages de fin d'études dans des cabinets vétérinaires comme tout le monde faisait, moi j'étais intéressée par la recherche déjà en 5e année. Donc je m'étais déjà renseignée pour des labos. Soit à l'hôpital, donc en médecine, soit en médecine vétérinaire. Il y avait des très bons labos de recherche qui faisaient que de la recherche pour éventuellement faire une thèse. Donc ça, c'était, je m'étais renseignée et j'ai fait mes stages de fin d'études dans un labo d'immuno dans lequel après j'ai fait ma thèse.
D'accord.
Donc en fait, déjà en 6e année, j'avais déjà un pied dans la recherche et j'ai fait mon travail de fin d'études avec eux, qui est l'équivalent de la thèse à la fin des 6 ans. Et après, ils m'ont proposé de faire une thèse. J'ai dû juste demander, enfin, j'ai dû juste, je dis juste, mais c'était quand même pas simple. J'ai dû demander un financement. Ils m'avaient dit, OK, tu peux rester, à condition que tu aies un financement de 4 ans, qui te paye pendant 4 ans. Donc, j'avais dû demander une bourse, c'était le gouvernement belge. C'est sur concours, donc c'est pareil, tu dois passer un concours. Ils prennent que les meilleurs projets et ils te financent pendant 4 ans. C'est la condition. Et je l'ai eu, donc du coup, je suis restée 4 ans et j'ai fait ma thèse dans ce labo d'immuno. Voilà. Et c'était en faculté de médecine vétérinaire. Donc la même fac où j'ai fait mon doctorat, c'était mon prof d'immuno, en fait, qui du coup qui était le directeur du labo. Et je suis allée dans ce labo-là.
Donc la recherche, c'était déjà dans les tuyaux depuis.
Dans les tuyaux, mais ça arrivait tard, hein, encore une fois. En fait, j'ai pensé quand j'étais au lycée. Et puis bon, c'est vrai que la recherche, quand t'es au lycée, on te dit qu'il n'y a pas de débouché, c'est quand même compliqué. Du coup, je l'avais fait veto parce que ça me tentait bien. Mais ça revenait quand même sur le tapis parce que je trouvais que pendant mes études, on n'approfondissait pas assez, ou en pratique en tout cas. Peut-être que dans les études, à la limite, ça va encore. Mais en fait, j'avais toujours envie d'en savoir plus sur plein de trucs, tu vois. Essayer de comprendre comment ça marchait, pourquoi. Et en fait, c'était hyper frustrant quand je faisais des stages en pratique l'été. C'est que parfois les propriétaires n'ont pas forcément envie d'investiguer le truc et on n'a pas le temps, pas forcément les moyens non plus d'essayer de comprendre. Et en fait, c'était frustrant d'être limité comme ça. Et du coup, j'avais envie de faire un truc pour comprendre, en fait, vraiment comprendre. Et en fait, c'est plus ça qui me fait vibrer dans tout ce qui est matière scientifique, c'est comprendre comment ça fonctionne plutôt que de traiter la condition, tu vois.
Ouais, je vois très bien. Et du coup, la thèse, c'est quand même une période qui est assez complexe pour l'avoir vécue à travers une de mes amies, où tu te retrouves donc en recherche de financement pour que ce projet voie le jour. Tu étudies, tu produis, tu travailles en même temps. C'est une période que tu as vécue de quelle façon ?
C'était pas tous les jours simple. C'est sûr que la thèse, ça a pas toujours été une partie de plaisir. Il y a eu des périodes où c'était, il y a des périodes, c'est pareil, hein. Il y a des périodes où ça, tout va bien, toutes les expériences fonctionnent rapidement, t'avances super vite. Et puis après, t'as des périodes où pendant 6 mois, ça avance pas. Tu répètes des manips qui foirent. T'es coincé, t'es dans une impasse dans ton projet. T'as un super projet sur le papier. Et puis en fait, quand tu le mets en pratique, il y a plein d'obstacles. Donc, il faudrait essayer de trouver des moyens de contourner tout ça. Et ça demande un temps de malade. Hein. C'est sûr que faire une thèse, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais si on se met les moyens, la motivation de le faire, honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, quoi. C'est 4 ans difficiles, mais moi, après, ça m'a pas empêché d'avoir une vie. J'avais quand même une vie. Mon mari, il a rien à voir avec la science. on s'est mariés quand j'étais en thèse, on a eu un enfant quand j'étais en thèse. C'est sûr que c'était pas facile tous les jours. Il y a des nuits où j'allais bosser. Ça m'est arrivé de garder mon fils qui était malade. Il pouvait pas aller à la crèche. Mon mari allait travailler. Et le soir, quand il rentrait, j'allais bosser. Et je rentrais que 4h du matin. Parce que j'avais des manips à faire, parce que j'avais des cellules dans l'incubateur qui pouvaient pas attendre. Et c'était comme ça. Mais bon, ça l'a fait. Hein. Mais des week-ends entiers, parfois des week-ends, parce que quand t'as des expériences qui durent 3 mois, que c'est des trucs in vivo avec, tu vois, des animaux et tout, tu peux pas te permettre de prendre un week-end loin, parce que tu dois pouvoir être disponible si jamais il faut aller prélever, etc., le samedi, le dimanche, prendre les températures tous les jours. Voilà.
Tu parlais de frustration, et du coup, pendant ta thèse, tu n'as justement pas trop souffert de la frustration. J'essaye d'imaginer, tu vois, de travailler sur un domaine bien particulier, espérer des résultats, rester pendant des semaines, des mois sur, je sais pas, un virus, quelque chose, et puis au bout d'un moment, se dire, bon, bah, de toute évidence, ce que j'ai fait n'a pas fonctionné.
Il faut rester optimiste et positif, ça c'est vraiment hyper important dans la recherche. Moi j'essayais de prendre du recul à chaque fois, même si parfois c'était franchement pénible, et de me dire, même si je ne pense pas, enfin au fond de moi je ne le pense pas, mais j'essaie de me le dire en me disant c'est qu'un job, c'est pas grave. Donc il n'y a pas mort d'homme, ok, la manip a foiré, mais tu vas recommencer, tu vas finir par y arriver. Mais c'est pas facile toujours de se dire ça, parce que parfois t'en as marre, t'as pas envie de recommencer, t'as passé des heures à faire ça. Mais il faut vraiment essayer de garder ce recul déjà, et avoir une vie à côté, je pense que ça aide quand même pas mal. Parce que quand t'as vraiment le nez tout le temps dedans, que tu manges recherche, que tu dors recherche, que tu bosses recherche, je pense que tu peux vite péter un câble, et c'est important d'avoir une vie à côté, en fait. Ça, c'est vraiment... J'ai toujours défendu ça. Je trouve que t'as pas besoin d'être un bon... Tu peux être un bon chercheur et pas forcément être H24, 7/7 dans un labo.
Au contraire. Peut-être même besoin d'un bon socle à côté, personnel, quoi.
Quand tu fais un break, moi, j'ai toujours remarqué ça, quand je fais un break de 2 semaines en vacances, je suis vachement plus motivée et plus efficace quand je reviens. Si tu traînes au labo tous les jours, tu deviens, en fait, tu fais un burn-out, quoi, à la fin.
Donc là, tu es en Belgique, donc mariée, jeune maman, la thèse, ça y est, c'est terminé. Et qu'est-ce qui, t'amène aux États-Unis et plus particulièrement en Californie?
Alors, ce qui m'a amené aux États-Unis, c'est justement un post-doc après. Donc, quand j'étais en thèse, j'ai cherché des post-docs assez rapidement. Dans ma troisième année de thèse, je voulais vraiment tout planifier. Je suis hyper organisée.
Je vois ça.
J'ai besoin de savoir où je vais. Donc, j'avais commencé à chercher, avant de défendre ma thèse, des post-docs. Parce que fallait qu'on vende la maison, fallait qu'on déménage, on était 3, donc c'était pas juste moi, tu vois. Et en fait, j'avais sécurisé un poste de post-doc 1 an avant ma thèse. Il y avait un labo à USC qui est à Los Angeles, donc c'est l'Université of Southern California, c'est l'Université de la Californie du Sud, qui m'avait accepté dans son labo pour... Ils avaient de quoi me financer 5 ans, ils m'avaient dit sans problème. Donc, si tu voulais rester 5 ans. Parce que j'avais un autre, éventuellement, poste à Harvard, qui était à Boston, qui me tentait beaucoup aussi, mais le chef du labo était pas sûr d'avoir financement pour plus d'1 an. Donc, j'ai préféré prendre la sécurité et aller à Los Angeles que d'aller à Harvard, qui était quand même aussi, Harvard, c'était un peu un rêve aussi d'aller à Harvard, mais bon, bref. C'est pas grave. USC, c'est une très très bonne université aussi. Au final, j'ai bien fait, je pense, parce que c'était bien. La Californie, c'était chouette aussi. Et donc, j'ai défendu ma thèse en janvier, je crois que c'était le 10 janvier, un truc comme ça, ou le 15 janvier. Et 4 jours après, on était dans l'avion.
Ah oui!
Ouais, on a enchaîné. On a déménagé. J'ai défendu ma thèse, on a déménagé, on a vendu la maison tout en même temps.
Oh là là, un tourbillon, quoi.
Ouais. Moi, je pense que je suis un peu cinglée, mais.
Bah regarde où ça t'a mené aujourd'hui, t'as la prochaine.
Ça enchaîne.
Est-ce que tu peux nous expliquer le principe du coup du postdoc? Est-ce que tu restes dans un domaine bien spécifique, ou est-ce qu'au contraire le postdoc étend tes connaissances et tes recherches sur d'autres domaines? Comment on décide et puis vers quoi on s'oriente?
Alors, on peut décider de rester dans son domaine, on peut aussi décider de changer un petit peu, de bifurquer, mais en général le recrutement de postdoc se fait... Il faut quand même que tu aies des compétences qui soient recherchées par le labo, donc il faut quand même pas trop s'éloigner de son domaine. Ou alors, tu peux avoir des compétences techniques que le labo peut rechercher, ça peut arriver, je pense. Moi, je suis restée dans mon domaine. Moi, mon domaine de recherche, c'était plutôt les herpès virus, Donc, j'ai un peu bifurqué parce que je travaille plus sur le même virus, mais je travaille sur la, du coup sur un virus humain qui donne des cancers, qu'on appelle le virus associé au sarcome de Kaposi, et le virus de l'herpès. Donc, virus de l'herpès labial, tout ça, ça j'ai travaillé dessus aussi. Alors qu'avant, je travaillais sur des virus, des herpès virus animaux. Donc, mais bon, le chef du labo m'a recruté parce que justement, j'étais déjà sur les gamma herpès virus et que ça avait du sens pour lui. Oui, ça a approfondi mes connaissances parce que déjà, j'ai appris pas mal de nouvelles techniques, etc. C'était plus les mêmes virus. C'était pas non plus le même labo, donc t'apprends aussi à comment dire, le management est différent, donc t'apprends aussi à voir autre chose, quoi. Quand t'as été que dans un labo, t'as que un son de cloche, tu sais pas comment ça se passe ailleurs. Mmh. C'était aussi bien d'aller voir ailleurs. Ouais, ça étend les connaissances, et c'est censé te former pour après rester dans l'académique, devenir prof, etc. Donc, t'es censé augmenter tes connaissances dans ton domaine, devenir meilleur, plus performant et un meilleur chercheur. Donc, être capable d'écrire des grants, capable d'écrire des papiers tout seul, devenir de plus en plus indépendant, en fait. C'est vraiment la transition entre la thèse et l'indépendance. C'est le postdoc, c'est le but, c'est ça.
Ok. Et c'est intéressant ce que tu disais, où toi, tu cherches justement un laboratoire qui puisse... t'apporter, alors déjà, qui souhaite t'accueillir financièrement, voilà, tout ça t'en parlait, qui puisse t'apporter... personnellement, professionnellement des choses, et que toi aussi, pour le laboratoire, tu sois bien sûr un atout supplémentaire. Donc ça, c'est, j'imagine, pas forcément simple à trouver entre ce que toi tu cherches et ce que eux recherchent.
C'est pas toujours simple, surtout que parfois, ça va que dans un sens. Faut pas se leurrer, la recherche, surtout aux États-Unis. Après, j'ai pas travaillé en France, donc je peux pas trop comparer, mais... par rapport à mon labo de Belgique, il y avait quand même une grande différence de mentalité. Une grande différence d'équilibre vie pro, vie perso. J'étais très contente en Belgique. Mes chefs étaient hyper raisonnables et très humains, et on est toujours en contact, etc. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus... on nous demandait beaucoup, quoi. Enfin, vraiment, des postdocs, on est... Je dis toujours, on est de la chair à canon, mais c'est un peu ça. On est juste... toutes les datas que le labo génère viennent de nous. Concrètement, c'est ça. Donc on doit tout faire. Et puis après il y a des chefs qui sont pas toujours raisonnables, quoi. Moi, mes collègues, ils travaillent 7 sur 7 jusqu'à 22h. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'ai toujours refusé de le faire. Et mon chef était, même si officiellement il nous disait venez 7 sur 7, au final il a jamais osé vraiment se plaindre. Il l'a fait indirectement en faisant des discours devant tout le monde. Mais il ne m'a jamais dit tu dois venir le dimanche, etc. Mais c'était bien la tendance. C'était mieux de venir 7 sur 7, quoi.
C'est toi qui mettais la frontière, quoi.
Ouais, moi j'ai mis la frontière. Moi j'avais une famille, j'avais pas du tout. J'étais pas là pour travailler 7 sur 7 non plus. J'étais là pour faire mon boulot, mais pas non plus me tuer la tâche, quoi. Mmh. Surtout qu'on est quand même mal payé en postdoc, hein. Payé au lance-pierre, à une misère. Franchement, ça vaut pas le coup de se tuer au boulot pour ça. Et au final, je faisais mes objectifs. Enfin, j'arrivais à générer des data et tout de la même manière, au final, que les gens qui naissaient sur scène. Donc, au final, j'ai jamais eu de commentaires négatifs à cause de ça, parce que j'étais efficace, en fait. Moi, mais j'avais beaucoup de collègues qui faisaient des siestes l'après-midi. Hein. Ils dormaient sur leur bureau, ils étaient morts, mais c'est normal, ils bossaient 7 sur 7. Alors, à un moment donné, tu peux pas être aussi efficace que quelqu'un qui bosse 5 sur 7 avec des horaires normaux. Alors après, je dis pas, il y a des jours où je suis revenue au week-end, ça m'est arrivé, parce que j'avais des time points qui tombaient comme ça, etc. Mais si j'avais pas de manip le week-end, je venais pas.
Mmh. Ouais. T'as réussi à mettre cette frontière-là. Mais oui, c'est pas facile, hein, surtout avec la pression qu'on peut avoir, j'imagine, autour de soi. Donc là, tu démarres ce postdoc en 2016, c'est bien ça?
Mmh.
Ça a duré 4 ans?
Non, ça a duré que 2 ans.
2 ans, ok.
Je suis partie après 2 ans, ça a duré 2 ans et demi, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un enfant pendant mon postdoc, ce qui m'a valu quelques remarques d'ailleurs.
Ah ouais.
Ouais, pas très sympa, mais bon, bref, passons.
Sans commentaire.
Ouais, c'est la maternité dans la recherche, c'est pas toujours très bien vu. Mmh. Bref, j'ai eu mon deuxième, et puis après je suis retournée au boulot après 3 mois, et je travaillais jusqu'à la fin. Donc, tous mes 3 enfants, j'ai travaillé jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Et après j'ai juste pris 3 mois pour chaque enfant. Et après, je suis retournée bosser. Et mon chef nous a annoncé, un peu après que je sois revenue bosser, qu'il partait à Pittsburgh, parce qu'il devenait directeur du centre de recherche sur le cancer, là-bas. Et du coup, il nous a tous offert, enfin pas tous, certains ils nous ont offert de venir avec lui, dont moi. Il m'a dit voilà, venez avec à Pittsburgh avec moi. Et moi j'ai pas voulu. Donc et comme j'étais en visa J1, donc le visa c'est un visa de chercheur, on peut pas faire ce qu'on veut. On est attaché au labo dans lequel on appartient. On appartient à un labo, en gros c'est ça.
Ah d'accord.
Au niveau de l'immigration. Et donc il fallait que je trouve un labo académique qui accepte de transférer mon J1, mon visa, dans leur labo. Donc, il fallait que ce soit absolument l'académie, je ne pouvais pas partir dans l'industrie par exemple. Donc j'ai cherché un autre labo qui pouvait me prendre, et en fait ça a été hyper facile, j'ai trouvé assez rapidement un labo pas très loin de Los Angeles, à l'université de Californie, qui travaille sur le virus de la varicelle, qui est aussi un herpès virus, et d'autres virus comme le virus Ebola, le virus de la fièvre jaune, et aussi Marburg, tout ça. Du coup, pas mal de virus, et c'était un labo d'immuno aussi, donc c'était très bien. Et donc, après 2 ans et demi, je suis partie en juin 2018, je suis partie dans ce labo-là. Et là, ça a duré 1 an et demi. Okay. Après, je suis partie. Après, j'ai eu ma carte verte et je suis partie dans l'industrie.
D'accord, ok. Et là, si mes calculs sont bons, on arrive à la genèse du compte Instagram.
Ah non.
Ah non?
Je suis partie, non, parce que je suis commencée dans l'industrie en 2019, j'étais chercheur en R&D, recherche et développement, donc je développais des vecteurs viraux, ce qui est virus qu'on modifie pour traiter des cancers, tout ce qui est CAR T-thérapie, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, donc moi j'ingénierais je faisais en sorte que les virus qu'on utilise soient safe et efficaces.
Okay.
Donc, qu'ils ne soient pas dangereux pour l'homme, mais qu'ils soient aussi efficaces. Voilà, et donc ça, c'était en 2020. Après, il y a eu le Covid. Et puis, j'ai eu ma fille en mai 2020, donc je me suis arrêtée 3 mois aussi. Et je suis retournée au boulot. Et en fait, j'ai commencé compte Instagram en février 2021.
Ah, tu vois, je pensais beaucoup plus tôt que ça.
Non, ça fait un peu moins d'un an et demi.
Ah bah tu vois, le temps passe vite, en bonne compagnie. Hein.
Ça passe super vite. ouais, là, ça a grandi en un an, un truc de fou. Mais j'ai commencé quand les vaccins sont arrivés sur le marché.
Ah d'accord. Ça a été pour toi le déclencheur?
Ouais, toutes les conneries qui sont sorties en même temps, j'ai pas pu... Là, il fallait que je... Ouais, j'ai commencé sur mon compte Instagram perso, j'avais un compte Instagram perso, avec que des expats quasiment, où partager des trucs de famille. Et en fait, il y avait plein de copines qui venaient me poser des questions. Je faisais souvent des stories. Il y avait tellement de bullshit qui circulait que je faisais des debunks tous les jours quasiment en story. Et en fait, j'ai fait un live avec une copine qui est à San Francisco, une Française, qui a une chaîne YouTube et qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et elle avait pareil plein de questions parce que les vaccins étaient arrivés avant chez nous. Et du coup, on avait fait un live ensemble. Et en fait, il y avait plein de gens qui étaient trop intéressés et tout. Du coup, je me suis dit, bon, je vais créer un compte Instagram juste pour parler de ça, parce que j'avais pas envie que les gens viennent sur mon compte perso pour ça. Mmh. Il y avait les photos de mes enfants et tout ça, j'avais pas trop envie de raconter ma vie, etc. Surtout qu'il y a quand même pas mal de haters et tout. Et donc, j'ai créé ce compte le 10 février 2021, exactement.
Ah, d'accord.
Et c'est comme ça que ça a commencé.
Oui, c'était le tout début des vaccins, c'est vrai.
Vraiment, au début, c'était le debunk des vaccins, de toutes les conneries qu'il y avait sur les vaccins. Et après, expliquer des trucs de base, et puis petit à petit, ça a évolué comme ça, en fait.
Et l'idée, c'était, j'imagine, de redonner un peu de véracité dans tout ce qu'on entendait. Moi, je déplore pendant cette crise sanitaire qu'on ait donné la parole à tout le monde, sauf à des personnes bien placées pour parler de ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite apprécié ton compte, c'est parce que je savais que je pouvais te faire confiance. Et que, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient dire, tu n'avais pas d'intérêt... À promouvoir les vaccins d'un point de vue financier.
Non,
tu
vois, un copec de Pfizer, Moderna, je ne sais pas quoi.
C'est ça, qui est une critique qu'on a beaucoup entendue. Donc c'était important aussi de dire, voilà, moi je viens vous expliquer ça, je n'ai pas d'intérêt.
Il y a toujours des gens qui pensent que j'ai des conflits d'intérêts.
Mais... Oui, j'imagine.
Ouais, ouais. Je ne peux rien, hein, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Je m'en fous, je sais que je n'ai rien à me reprocher. Mais c'est vrai. Alors après, moi je dis toujours, ne me croyez pas sur parole. Moi, essayez... Je cite toujours les sources, je dis allez-y, vérifiez toujours. Prenez en fait l'habitude de vérifier ce que... Parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ont parlé pendant la pandémie, des médecins, des chercheurs, qui étaient renommés dans leur domaine, mais qui ont raconté des conneries. Il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des gens qui ont fait des études dans ce domaine-là et qui ont quand même surfé sur la vague des fake news. Hein. Donc, tu vois, l'argument d'autorité, ça marche pas toujours. Et c'est, en fait, mon but, c'était pas qu'on me croie sur parole, c'était vraiment de démontrer par A plus B pourquoi ça c'était faux avec des faits et pas juste en disant ça c'est faux parce que c'est moi qui le dis. Et ça, c'est vraiment les bases du compte. J'essaie à chaque fois de citer les sources. Parfois, ça m'arrive d'oublier. Et à chaque fois, les gens me disent, ah, elles sont les sources. Ils ont tellement l'habitude maintenant. Ah mince, t'as raison, j'ai oublié. Du coup, je copie les liens. Mais oui.
Ouais, je trouve de vulgariser déjà parce que tu vois, on entendait des mots protéines spike, tu dis ça tout venant, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont aucune idée de ce que ça signifie, à commencer par moi. Et comme tu disais, citer les sources. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vraiment tu viennes prendre les arguments un à un pour les débunker un à un aussi. Parce que dire ce que je vous dis est vrai, ce que les autres racontent c'est faux, c'est bien gentil, mais c'était dire non, le vaccin ne modifie pas votre ADN, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ADN, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ARN messager, ça c'est un truc qu'on entendait un peu dans la bouche de tout le monde, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait compris ce qui était vraiment l'ARN messager.
Ouais, c'est clair. Et c'était vraiment. En fait, je voulais reprendre les bases parce qu'en fait, les gens savaient même pas ce que c'était que de l'ARN, par exemple. Ça, c'était vraiment. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vécu dans un monde scientifique, au final, pas quand j'étais pas grand ado, enfant, mais depuis que je suis veto, etc. Tous mes collègues ont ce background là, donc je me rendais pas compte, en fait, à quel point les gens ne savaient pas forcément ce que c'était que l'ADN ou la différence entre l'ARN, l'ADN, ce qu'il y avait dans une cellule. Et donc, je trouvais que ça était important juste de remettre les bases, leur expliquer, et comme ça, par eux-mêmes, après, ils peuvent comprendre le non-sens du truc. Parce que si tu expliques, alors si tu comprends, en fait, c'est, je trouve que c'est, on dit toujours le savoir c'est le pouvoir, mais c'est vraiment le cas, hein, dans le cas des pandémies. Après, si t'as compris comment ça marche, alors tu comprends pourquoi c'est pas vrai, pourquoi c'est pas vrai que l'ARN va dans le noyau, parce que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Mais bon, voilà, c'était le but, c'était d'expliquer avec des schémas. Parfois, je me creuse un peu la tête sur le format. Enfin, au début, c'était vraiment ça le truc. Je voulais créer un compte Instagram, mais je savais pas comment faire pour expliquer aux gens. J'ai dit, je vais pas faire des vidéos longues, ça va être relou. Moi, j'avais aucune notion de réseaux sociaux, à part poster des photos de vacances, c'est tout ce que je faisais. Je suis pas du tout dans le marketing ni rien. Donc, j'ai dû me creuser un peu la tête sur le format, puis j'ai commencé les infographies, ça a marché, à utiliser Canva et tout ça, à apprendre sur le gérant, après sur le tas, hein, j'ai aucune formation ni rien. Et à force de faire, tu vois ce qui marche aussi, ce que les gens comprennent mieux, ce qu'ils comprennent pas forcément, que du coup tu dois modifier, être plus simple, parfois tu rentres trop dans le compliqué, en fait tu te rends compte que en fait, tu perds complètement les gens. Donc il faut encore plus simplifier. Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à des infographies, puis après des vidéos plus longues. Puis maintenant, je reviens au format plus court, parce que c'est ce qui marche le mieux, en fait.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, par expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui est le plus percutant?
Les réels, en ce moment, les réels, les petites vidéos courtes, ça marche très bien. Avec le message, en général, je mets le message essentiel dans la vraie réel, et après, je développe dans la caption pour apporter plus d'infos avec les sources, etc. Mais c'est ce qui marche le mieux pour toucher le plus de monde, entre guillemets. Si tu veux vraiment faire de l'éducation scientifique à grande échelle, rapide, les gens, ils aiment pas, en fait, regarder des vidéos trop longues, surtout sur Instagram. C'est plus à la limite pour un format pour YouTube, ça. Et du coup, c'est ce qui marche le mieux pour capter l'attention. Et puis après, peut-être que les gens vont lire la caption, mais je me dis que s'ils lisent la caption, alors ils comprennent le message et ils ont retenu un truc, tu vois, qui potentiellement peut les aider dans leur vie, pour la santé. C'est des trucs. Mais c'est ce qui marche le mieux, hein. Franchement. Là, j'ai fait un réel avec. Je pique toujours la dînette des enfants pour parler de tout ce qui est transmission de microbes par la bouffe, quoi. Et ça a fait plus d'un million de vues. Chaque réel avec ça, c'est un truc de fou. Je pensais pas. Hein. Mais après, j'ai toujours étonné parce que je connais pas trop grand-chose en marketing digital ni rien. Du coup, parfois, je pose des trucs en me disant, c'est un truc vite fait, mais je sais pas si c'est très intéressant. Et en fait, ça marche. Les gens sont hyper intéressés. Et puis après, parfois, je pose des trucs que je trouve moi super intéressants et qui marchent pas, qui font un
Ah.
gros bide.
C'est
Alors
toute
tu te dis,
la
oula.
frustration des réseaux sociaux, ça.
Ouais, c'est pas toujours évident de savoir le curseur où il faut le mettre et tout.
Et le succès de ton compte Instagram, tu l'as vu venir? Est-ce que ça t'a surprise, honnêtement, comment tu l'as vécu?
Ça m'a surpris, ouais. Il y a eu, ouais, ça a démarré quand même. J'ai mis 3 mois à aller pour arriver à, non, Ouais, 3 mois pour arriver à 10 000. Et après 10 000, c'est parti en flèche pendant l'été. C'est un truc de... Je crois que je suis arrivée à 70 000 en septembre. Et donc en mai, j'étais à 10 000. Donc c'est parti pendant, ouais, pendant le Covid et tout ça. J'ai eu des partages de trucs de fou, quoi. Enfin, et ça m'a dépassée à un moment donné, en fait. Ça m'a vraiment... C'était tellement soudain que bah, je savais pas couvrir tous ces gens. Faut dire ce qu'il y a, hein. C'est beaucoup de gens quand même qui regardent ton compte. Donc, si t'as eu pas que du positif, hein. Il y a toujours des gens qui viennent pour critiquer. Il y a des gens qui viennent pour te dire que tu fais de la propagande, machin et tout. Enfin, ça, je bloque. Maintenant, j'ai bien compris le truc. Mais au début, c'est vrai que tu sais pas quoi en faire de ces gens-là. Maintenant, je cherche même plus à comprendre. Je bloque. Et voilà, mais c'est vrai que ça a été hyper soudain. J'ai pas eu le temps de me préparer. Mais bon, c'était cool. Et après, le problème, c'est que ça me prend de plus en plus de temps, en fait. Et c'est plus ça qui me fait peur, c'est le temps que ça me prend. Parce qu'en fait, tu te rends dans un engrenage où t'as l'impression que tu peux plus faire marche arrière. Tu te dis, tu peux pas dire. Parfois, je fais des pauses de 2, 3 semaines, mais t'as l'impression que t'abandonnes les gens, tu vois.
Je vois très bien.
Qu'il faut que tu reviennes parce que. Tu vois, surtout quand il y a une fake news qui sort, alors là, t'as 15 000 messages,
Tout le monde
et
t'attend au
tu dis,
tournant.
merde, il faut que je revienne en story parce que les gens sont en train de paniquer. Tu te sens un peu redevable, en fait. Tu te sens obligé.
Et
Alors, la plupart des gens se trouvent ça marrant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis hyper dans le rush dans ma vie pro, dans ma vie perso, et j'ai pas forcément le temps pour Instagram, mais parfois je me dis, il faut quand même que je poste pour que j'explique ça, il y a des trucs dans les news. Et je prends le temps, mais en fait, ça me coûte vachement mon énergie, ça me coûte mon temps de sommeil, ça me coûte mon temps perso
Perso,
aussi.
bien sûr,
C'est pas
ouais.
mal de sacrifices, au final, c'est pas mon job à temps plein. Ce que je dis aux gens, souvent, je dis, c'est pas... Parce que parfois, les gens sont un peu exigeants. La plupart du temps, franchement, ils sont compréhensibles. Donc, je me plains pas. Il y a toujours des gens qui viennent en disant, j'ai demandé un poste là-dessus, je l'ai toujours pas eu.
Oh non, mais.
Bah attends, tu me payes pas, déjà, de 1,
Où
c'est
est
pas
passée
mon...
l'éducation, là?
Et de deux, je le ferai un jour quand j'aurai le temps, tu vois. C'est pas, je dois rien à personne au final, mais voilà, j'essaye hein, ouais, d'être. Enfin, voilà, j'essaie d'être partout, mais c'est difficile. C'est difficile d'être à la maison, au boulot et sur Instagram. J'ai
Ouais, c'est
l'impression
sûr.
d'avoir trois vies en permanence.
Ouais,
Pas pareil.
c'est presque un métier en soi, donc complètement à côté de
Les
tout ce que tu
gens qui
fais.
font ça que ça, non?
Ouais, bien sûr.
C'est un temps plein, donc j'ai l'impression de faire deux temps plein en fait,
Complètement.
quasiment.
Qu'est-ce qui t'inspire tes contenus? Alors, j'imagine ce que tu vois dans les actus et qui doivent probablement te rendre folle, ou les fake news ou ce genre de choses, mais est-ce que parfois ce sont des interactions avec des abonnés
C'est tout le temps
qui...
ça, quasiment.
Ah
C'est
ouais, c'est
tout
vrai.
le temps. Ouais, parce que je fais souvent des questions là, des questions ouvertes. D'ailleurs, je vais vous leur faire une ce soir parce que je suis en panne d'inspiration pour cette semaine. En fait, je demande aux gens, posez-moi vos questions ou les thèmes que vous aimeriez aborder. Ou parfois, je leur dis, est-ce que vous voulez préférer plutôt, je sais pas moi, la dengue ou papillomavirus cette semaine? Et ils choisissent. Parce qu'au final, moi, je suis du côté de la barrière, donc je me rends pas compte de où l'information est nécessaire. Est-ce qu'ils ont assez d'infos sur la rougeole ou est-ce qu'ils ont assez d'infos sur la HPV? Et donc, en fait, c'est mieux de demander aux gens exactement quelles sont leurs interrogations parce qu'après, du coup, tu peux adapter aussi ton contenu et répondre. Parfois, un post, c'est juste répondre à une seule question toute simple auquel moi, j'aurais même pas pensé. Parce que c'était. Moi, j'ai une vision biaisée du truc parce que enfin, avec mes études et tout, il y a des trucs qui me semblent naturels qui, en fait, sont pas forcément automatiques chez
Oui,
les gens de maladies infectieuses, tu vois, c'est vraiment,
ce qui est
c'est pour ça que
évident
c'est
pour toi, l'est pas forcément pour les autres. Donc, faut aussi se
ça.
forcer à vulgariser des choses qu'on connaît puis qu'on a déjà intégrées depuis longtemps. C'est difficile.
Ouais, puis ce qui m'intéresse moi est pas forcément d'intérêt pour les gens, en fait. Parce que moi, je suis plus dans le mécanistique, détail, ça va plus me passionner. Et je sais que les gens sont plutôt dans Allez, ils ont des questions assez simples, et, je dirais pas naïves, mais presque. Genre, ce qui les intéresse, c'est quel est le danger pour leur santé ou quel est le risque pour leur santé. Alors, moi, ça va être plus dans la mécanique du truc, comment ça marche et tout.
Bien sûr,
Donc, c'est pour ça qu'il faut leur demander. Et puis, enfin, c'est eux aussi qui lisent ton contenu. Donc, je trouve que c'est important que, au moins, ce que tu crées, ben, ça les intéresse, quoi.
est-ce que tu as quelques petites anecdotes insolites, soit alors je sais pas, des échanges que tu as eus avec des personnes qui te suivent, ou peut-être ce que le compte Instagram a généré derrière, ou vers vers quoi ça a pu t'emmener ou...
Des anecdotes, j'en ai plein, mais j'essaie de réfléchir comme ça. Ça m'a emmené qu'au final, je suis partie d'un truc sérieux où maintenant je suis finie déguisée dans trois quarts de mes réels. J'ai créé des personnages, je pense que je deviens un peu schizo sur les points. j'ai créé des personnages, il y a Brenda, il y a tout ça. Et les gens me parlent des personnages, c'est ça qui est marrant. C'est que les gens me parlent de Brenda comme si c'était une vraie personne.
Tu sais, les acteurs, ils doivent avoir la même chose.
Ouais, les acteurs, franchement, je leur tire mon chapeau parce que parfois, c'est un peu... mais ça, c'est la partie vraiment marrante. J'adore faire ça. Créer du contenu, adapter les réels pour que ça aille dans mon thème et dans mon domaine, ça, c'est ce que je préfère faire. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme anecdote? Ouais, j'ai des gens qui me demandent des consultations tout le temps sur... en message privé, mais ça, je réponds jamais. Je suis pas médecin, en plus, aujourd'hui. J'ai toujours arrêté de m'envoyer parfois des trucs hyper privés, genre IST, MST et compagnie. Moi, je suis là, les gars, je suis pas gynéco, je suis pas dermato, je suis pas... allez voir votre médecin, quoi. Mais même un gynéco, il en veut pas de vos histoires sur Instagram. Je suis désolée, mais il faut aller... Ça, c'est un peu gênant. Quand tu ouvres tes messages privés et que t'as des... Et encore, j'ai pas de photos, je sais qu'il y a des... copains Instagram médecins qui eux ont carrément les photos.
Oh, moi, j'ai pas, mon Dieu.
Pas les photos, mais bon, ouais, ça c'est les gens confondent vraiment vulgarisation scientifique et consultation. Ils pensent que tu parce que tu sais comment fonctionne la maladie, alors tu vas être capable de répondre à leurs questions. T'as pas médecin, t'as pas le droit de le faire. De toute façon, même un médecin, sans voir le patient, ça, il pourra pas le faire. Donc,
c'est ce que j'allais dire. Les gens doivent s'imaginer aussi qu'en montrant alors une photo ou en présentant un problème donné... Voilà, on sait tout de suite ce que c'est. Voilà, on n'est pas chez le garagiste. Hein, c'est pas...
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quoi. Ouais, du coup, je dis tout le temps, j'arrête pas à le répéter en story, ne me posez pas de questions sur votre santé. Si vous avez une question sur votre santé, allez voir votre médecin. C'est pas à moi d'y répondre, j'ai pas le droit de le faire, et j'ai pas envie de le faire. Mais ouais, ça c'est. Je réponds jamais à ces questions-là. Ouais.
Je te vois souvent écrire, je suis pas médecin. Et justement, comment est-ce que tu expliquerais aujourd'hui à quelqu'un qui n'y connaît rien dans ce domaine ce que tu fais aujourd'hui du coup dans ton autre travail salarié?
Alors actuellement, j'ai changé de boulot. Je suis plus en R&D. Je suis manager des publications scientifiques. Donc je m'occupe de tout ce qui est publications scientifiques pour les conférences, les manuscrits, pour les articles, pour les peer reviewing. Donc c'est la révision par les pairs pour les publications dans le domaine des maladies infectieuses pour une biotech, notamment sur le Covid, etc. Donc moi, je suis plus dans le labo, je fais plus de manip, je passe ma vie sur mon ordi à analyser des data, les organiser en graphique, etc. à écrire. Voilà. Mais j'aime bien, c'est marrant, c'est autre chose, c'est différent. J'en avais marre du labo, donc ça tombe bien. Près 10 ans.
C'est une reconversion, pas forcément parce que tu restes toujours dans le même domaine, mais c'est une suite en tout cas qui te plaît.
C'est vraiment une partie que je faisais déjà avant. Mm-hmm. C'est juste qu'avant je faisais labo et ça, et maintenant je fais plus que ça. Et ça me vient très bien parce que du coup je suis full remote, comme on dit. Donc je travaille en distanciel, donc je travaille plus. Je suis plus rattachée à un site, donc je peux travailler d'où je veux. Ça, c'est pour moi la liberté.
Ce qui va permettre du coup un petit déménagement, si j'ai bien compris, ouais, de l'autre côté des États-Unis.
On déménage, ouais, en Floride.
Bon, ouais. Avec un décalage horaire un peu plus simple, j'imagine, pour pouvoir parler à vos familles. Voilà.
Ouais, 9h.
Ouais. Et puis ne serait-ce que pour rentrer...
C'est pour ça qu'on déménage, pour pouvoir rentrer plus facilement en France.
C'est sûr.
Avec
les
enfants.
Bon, génial. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, alors?
De dormir plus, je sais que beaucoup de gens me souhaitent ça.
Je te le souhaite aussi.
Je ne l'ai pas encore intégré, mais je sais que c'est le souhait numéro un des gens, que je dorme plus. Non, j'ai vraiment du mal à dormir. Enfin, c'est pas que j'arrive pas. Une fois que je suis couchée, je dors. Mais j'ai du mal à me coucher. Pour moi, c'est une perte de temps à dormir. C'est vraiment... je suis une catastrophe. Un exemple. Ne faites pas ça chez vous.
Ne pas reproduire chez vous.
Mais si. Non, j'ai du mal à me coucher tôt. C'est vraiment... J'ai toujours besoin de faire plein de trucs le soir. Une fois que les enfants sont couchés, il faut que j'avance sur Instagram, sur des trucs que j'ai pas eu le temps de faire la journée. C'est dur, mais bon.
Et voilà. Les chroniques aussi vers lesquelles le compte aussi Instagram a pu t'emmener. J'ai vu une petite chose chez Jamie, on n'en a pas encore parlé.
Ouais, j'ai fait des. Donc, je travaille avec la production de chez Jamie sur France 5, qui est une émission de. vulgarisation sur tous les domaines, hein, pour les enfants et pour la... C'est vraiment plus axé familial, c'est un peu comme C'est pas sorcier qu'on a connu, nous, quand on était plus jeunes, qui d'ailleurs est présenté par Jamy Gourmand, qui était présenté dans C'est pas sorcier aussi. Et je fais des chroniques, tout ce qui est chronique de biologie, tout ce qui, dès qu'il y a des microbes dans l'histoire, je les fais. Je les tourne chez moi, donc ça c'est pas simple, parce que la plupart des chroniqueurs tournent à Paris, en plateau, studio, ouais. Et moi je suis obligée de faire ça chez moi, alors que j'ai absolument aucune notion de tournage, de réalisation, ce qui donne lieu d'ailleurs à des anecdotes assez comiques, comme par exemple j'envoie des chroniques où j'ai pas branché mon micro, donc on me dit ton micro est pas branché, il faut que tu recommences, et moi j'avais pas remarqué. Donc voilà, j'ai acheté des lumières pour avoir de la lumière sur ma tête, enfin bon, bref, j'y connaissais rien à la base, donc c'est assez folklorique. Mais ça marche. Ça me prend du temps, mais ça marche.
Bah écoute, le rendu est canon en tout cas. Hein. Tu vois, tu nous fais part de toutes les petites subtilités technologiques, mais nous, on s'en rend pas compte.
Ouais, le behind the scene, là, il voit beaucoup de chance.
Bon, bah super. Un grand merci, Océane. Alors maintenant, c'est l'instant auto-promo. Du coup, on te retrouve sur Instagram, The French Virologist.
Ouais, je suis essentiellement sur Instagram. J'ai un TikTok aussi, mais j'utilise très peu.
Ah. C'était la résolution de l'année 2022.
J'ai essayé, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok, voilà, pendant un temps, ils disaient qu'Instagram allait mourir et que ça allait être TikTok, etc. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps de faire tout. Je peux pas tout faire.
C'est sûr.
Je peux pas faire Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Ou alors c'est un boulot à temps plein et c'est pas le cas, donc voilà.
Ouais, autant de plateformes que de formats différents, puis même de messages
ça,
à faire passer.
Le monstre, hein, quand tu commences à avoir plusieurs plateformes, mais alors laisse tomber, hein, tu t'en sors plus, je pense.
Complètement. Mm. Bon bah super, un grand merci Océane.
Merci Marielle.
Pour tout ça, c'était chouette d'apprendre à te connaître, parce que tu vois, je pense que, à commencer par moi, tout le monde ne connaît pas la genèse de... alors, on parle du compte Instagram, parce que c'est comme ça que je t'ai connue, mais de tout le reste aussi, je trouve que ton parcours est hyper inspirant, donc merci beaucoup pour ça.
Ben, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Et bonne nuit.
Merci.
Je sais à quel point les journées et les nuits d'Océane sont bien remplies. Je tiens donc à la remercier à nouveau pour son temps et pour sa disponibilité. Et j'espère que l'épisode vous aura fait découvrir son parcours sur ces deux continents. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.